Merci d'écouter France Inter, c'est le 6-9 de l'été, il est 7h. Lundi 8 juillet 2019, bonjour Agnès Soubiran.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, le retour de la droite au pouvoir en Grèce. La parenthèse de Tsipras est terminée. Le parti Nouvelle Démocratie de Kyriakos Mitsotakis obtient la majorité absolue dans un pays encore très fragile économiquement. Les autres titres, Agnès.
Ces jours de rattrapage pour le bac 2019, une édition décidément très chahutée. Dérembourser l'homéopathie, décision officielle attendue cette semaine. Le succès des camps scouts, laïcs, catholiques et musulmans. Et puis elle a été désignée meilleure joueuse de la Coupe du Monde, l'américaine Megan Rapinoe, personnalité hors cadre du foot féminin.
Les invités de France Inter ce matin, 7h50, le comédien Jacques Weber au Festival d'Avignon, il joue Architecture de Pascal Rambert. 8h20, le grand entretien de la matinale avec la secrétaire d'État à l'égalité entre les femmes et les hommes, Marlène Schiappa. La lutte contre les féminicides, la place des femmes en politique, la PMA pour toutes. Vos questions dès maintenant au 01 45 24 7000. Ou sur l'application franceinter.fr.
France Inter. Il avait suscité l'espoir en janvier 2015 dans un pays ruiné par la crise de la dette. 4 ans plus tard, Alexis Tsipras, finalement obligé de mener une politique d'austérité, essuie donc un double échec aux européennes fin mai et aux législatives hier, puisque son parti de la gauche radicale, Syriza, perd presque la moitié de ses sièges à l'Assemblée. Et c'est donc la droite et le parti Nouvelle Démocratie qui obtient la majorité absolue avec 158 députés sur 300. Le futur Premier ministre Kyriakos Mitsotakis reste cependant prudent tant la situation économique de la Grèce reste fragile. Marie-Pierre Vérot, l'envoyé spécial de France Inter à Athènes, a passé la soirée auprès des militants conservateurs.
Une joie certes, mais mesurée, c'est l'ambiance qui régnait au soir de la victoire au quartier général de Nouvelle Démocratie.
À partir d'aujourd'hui débute un beau mais difficile combat. Le pays redresse de nouveau la tête fièrement et nous, nous allons retrousser nos manches. Le nouveau gouvernement va travailler avec humilité. La valeur de la démocratie va être restaurée. Il pourra y avoir des erreurs en chemin, mais nous ne remettrons jamais en question les objectifs que nous nous sommes fixés. Améliorer la vie de chaque Grec.
Lorsque Kyriakos Mitsotakis s'est présenté devant ses partisans, il s'est gardé de tout triomphalisme. Chacun sait que les difficultés ne vont pas se résorber du jour au lendemain, nous explique Giorgos.
C'est une bouffée d'air frais. Je pense qu'il va mettre les choses en ordre. Ramener de la justice, créer des nouveaux emplois, baisser les impôts. La classe moyenne a été détruite par les impôts. J'avais un restaurant avec 30 employés et j'ai dû le fermer. Les impôts étaient plus élevés que les revenus.
Des impôts qui ont écrasé la classe moyenne et entraîné la chute de Tsipras. Le vainqueur du jour n'a pas droit à l'erreur. On l'a donc applaudi, certes, avant de rentrer bien vite chez soi. Athènes, Éric Audra, Marie-Pierre Vérot, France Inter.
A noter également le recul du parti néo-nazi Obdoré qui pourrait ne plus avoir de siège à l'Assemblée. En revanche, le parti nationaliste pro-russe Solution Grecque obtient 10 sièges et 9 pour le parti créé par l'ex-ministre des Finances Yanis Varoufakis.
Il est 7h03, les oraux de rattrapage du bac débutent ce matin, Agnès.
Près de 104 000 candidats sont convoqués. Ils ont obtenu entre 8 et 10 de moyenne générale et ils ont 2 matières à repasser, sur fond toujours de polémique puisque les quelques 10 000 notes selon le ministère, encore retenu par des enseignants grévistes, devrait être rentré dans le logiciel aujourd'hui, ce qui ne sera pas sans conséquence. Certains élèves qui passent les oraux ce matin sur la foi des notes du contrôle continu ont peut-être fait mieux au bac et ont donc décroché leur diplôme. Un système mis en place par Jean-Michel Blanquer et qui a reçu hier le soutien du chef de l'État.
Le ministre a été très clair dès le début, il a appelé tout le monde au devoir, il a été très clair sur les règles du jeu et ses notes provisoires et les règles après correction des copies. Donc je pense que le ministre a eu la bonne réaction. Moi, je respecte chacune et chacun. Je respecte la liberté d'opinion, la liberté syndicale. Mais à la fin des fins, on ne peut pas prendre nos enfants et leurs familles en otage. Je crois que quand on est enseignant dans la République française, on a des devoirs aussi. On a des droits. Tout le monde a des droits, mais on a des devoirs.
Emmanuel Macron interrogé par Jacques Vendroux, une déclaration très mal vécue par les enseignants grévistes à l'image de Vincent, correcteur gréviste en Île-de-France.
Déjà, il faut arrêter avec ce terme de prise d'otage. Je pense que les otages étaient les spectateurs qui étaient au Bataclan. Ces propos, en fait, au-delà de nous renforcer, nous confortent dans notre choix. On a fait le choix de défendre véritablement les services publics, on a fait le choix de l'équité et de l'égalité entre nos élèves. Nous, le bac, on le prend au sérieux, ça fait 3 ans qu'on prépare nos élèves depuis la seconde à cet examen, mais c'est Jean-Michel Blanquer qui a décidé de donner des notes complètement inventées et complètement fantasques aux élèves. Donc oui, nous sommes encore plus décidés dans notre combat, bien évidemment. Les dernières copies seront rendues donc aujourd'hui, entre 8h et 10h, mais ensuite le mouvement continue.
Combat contre la réforme du bac, propos recueillis par Sonia Princé. Emmanuel Macron, qui était à Lyon hier pour la finale de la Coupe du Monde, nous allons y revenir, en a profité pour dîner avec Gérard Collomb et doit petit déjeuner ce matin avec David Kimmelfeld pour tenter de départager les deux candidats marcheurs au municipal de 2020, même si c'est en principe la Commission nationale d'investiture qui doit trancher entre l'ancien ministre de l'Intérieur et l'actuel président de la métropole. La commission qui doit aussi auditionner demain les 3 candidats à la mairie de Paris et rendre sa décision après-demain. Autre décision très attendue, et là aussi Emmanuel Macron aurait finalement tranché pour le déremboursement de l'homéopathie. La ministre de la Santé doit l'annoncer dans la semaine. La Haute Autorité de Santé le 28 juin a été très claire, les produits homéopathiques n'ont pas démontré scientifiquement une efficacité suffisante pour justifier d'un remboursement, aujourd'hui à hauteur de 30%. Mais aujourd'hui, Yael Gauze, le sujet est moins scientifique que politique.
Difficile d'arbitrer entre le gain très faible pour les caisses de l'État et le coût politique du déremboursement. Surtout quand les grands barons s'en mêlent et se font les porte-parole des labos situés dans leur région. De Gérard Collomb à Laurent Wauquiez, en passant par Xavier Bertrand, leur opposition se situe d'abord sur le terrain de l'emploi, environ 1300 dans ce secteur, mais aussi sur le pouvoir d'achat des Français. Les années passent, l'argument reste. Confronté au même arbitrage en 2004, le ministre Philippe Douste-Blazy avait préféré le statu quo.
C'est une toute petite goutte d'eau dans l'assurance maladie.
Une goutte d'eau à 127 millions d'euros qui donnerait quand même un peu d'oxygène, fait-on valoir au ministère de la Santé, car c'est plus que la prime versée aux urgentistes. Autre argument, la perte de pouvoir d'achat serait dérisoire, pas plus de 2 euros par mois par Français. Il ne faut plus tergiverser, estime le député En Marche Olivier Véran, rapporteur de la Commission des affaires sociales.
Moi, je crois qu'à un moment donné, il faut trancher. Ou on considère que les études scientifiques étant suffisamment robustes, on dérembourse l'homéopathie, ou on considère que politiquement c'est trop chaud, que ça ne sert à rien de crisper tout le monde, et auquel cas on continue de rembourser à 30%. Mais une mesure à 15%, par exemple, ce serait assez un petit peu étonnant. Voilà, en tout cas un peu dommage.
Agnès Buzyn s'est personnellement engagée pour la fin du remboursement. Tout recul l'affaiblirait politiquement au moment d'affronter les gros dossiers de l'acte 2, hôpital, retraite, bioéthique et dépendance.
Attendu encore aujourd'hui l'avis de la Cour de cassation sur le barème des prud'hommes. Une quinzaine de conseils refusent de l'appliquer et le Conseil des prud'hommes de Louviers a saisi la Cour de cassation, estimant que ce barème et le plafonnement des indemnités n'étaient pas conformes aux textes internationaux. Et c'est sans doute une très longue bataille juridique qui commence, Laurent Kramer.
Les conseils des prud'hommes se préparent à une longue guérilla juridique, car quel que soit l'avis rendu aujourd'hui par la Cour de cassation, les recours et contestations possibles ne sont pas prêts de s'arrêter, souligne le président du Conseil des prud'hommes de Louviers, Thierry Philippot, élu CGT qui a sollicité l'avis de la Cour de cassation.
On peut dire qu'aujourd'hui la barémisation a quand même du plomb dans l'aile. Pendant encore quelques années, avant que vraiment la Cour de cassation se soit prononcée, il y aura encore des conseils de prud'hommes qui ne vont pas l'appliquer. Il y a des décisions qui vont tomber de différentes cours d'appel et qui seront peut-être contradictoires l'une de l'autre.
Le temps qu'une juridiction valide ou invalide définitivement ce plafonnement des indemnités, les multiples recours déstabilisent aujourd'hui les employeurs et notamment les petites entreprises, souligne Marc Sanchez du syndicat des indépendants.
C'est un vrai facteur d'incertitude aujourd'hui pour beaucoup de chefs d'entreprise. Beaucoup s'interrogent effectivement sur le fait de savoir s'ils vont embaucher ou pas, si la rupture de leur contrat pourrait être faite éventuellement dans des zones de sécurité ou pas. Oui, on est dans une incertitude aujourd'hui.
Si le gouvernement estime que son barème des indemnités aux prud'hommes est juridiquement inattaquable, cette contestation au long cours à laquelle se préparent juristes et avocats fragilise le barème pour plusieurs mois, voire plusieurs années.
France Inter, il est 7h09, c'est le début des vacances et le succès des camps scouts ne se dément pas.
Premier mouvement de jeunesse au monde avec 60 millions d'adhérents et parmi ceux qui débutent aujourd'hui en France, un camp des scouts musulmans de France près de Montauban avec près de 250 jeunes. Car non, les scouts ne sont pas soit catholiques, soit laïcs. Les musulmans font aussi partie de la Fédération du scoutisme français et leur effectif, Julie Pietri, a doublé en 2 ans.
Scouts toujours ?
Chez les scouts musulmans de France comme ailleurs, il y a au menu fabrication de tables, montage de tentes, préparation des dîners, mais pas de messe forcément, à la place des temps de prière non obligatoires. Abdelhak Sali est leur président.
C'est surtout le temps qui vient après cette prière qui est intéressant parce que c'est là où les jeunes peuvent poser des questions sur ce qui les préoccupe, questions religieuses ou non d'ailleurs. Et aujourd'hui en France, avec le climat en fait, il y a une pression sociale énorme sur ces jeunes-là. Nous, il y a beaucoup de petites phrases comme ça qu'on dit à nos jeunes, des citoyens à part entière et pas des citoyens à part. On leur dit aussi pouvoir débattre sans se battre, dire ce que l'on pense, mais aussi d'écouter les idées des autres. Le scoutisme n'est pas coloré par une religion spécifiquement. C'est une méthode, l'éducation par le jeu.
Les scouts musulmans de France accueillent 1 millier d'enfants chaque année, faute de bénévoles en nombre suffisant pour en encadrer davantage. Parmi les gamins fidèles, Samy, famille de commerçants sur les marchés de Montauban, il a 17 ans et 10 ans de scoutisme.
Ça m'a vraiment changé, car voilà, il y a l'éducation scolaire, l'éducation de nos parents, etc. Mais après, il y a l'éducation qu'on se donne à soi-même. Vraiment, c'est l'aventure, comme on dit chez nous les jeunes, un kiff.
Les 3 petites sœurs de Samy seront en camp scout à leur tour cet été, la plus petite pour la première fois. Et attention à la météo sous la tente avec un risque d'orage à partir de 14h cet après-midi dans 7 départements du sud-ouest placés en vigilance orange. Il s'agit de l'Ariège, de la Haute-Garonne, du Gers, des Pyrénées-Atlantiques, des Hautes-Pyrénées, du Tarn et du Tarn-et-Garonne. Ouvrons à présent le volumineux chapitre des sports avec la nouvelle défaite des basketteuses françaises en finale de l'Euro, battue 86-66 par les Espagnols. 4e finale de l'Euro perdue d'affilée pour les Bleus, dont 3 fois face aux Ibériques. Le Tour de France qui arrive en France, après 2 étapes en Belgique. Le maillot jaune est toujours sur les épaules du Néerlandais Mike Tennyson. Au programme aujourd'hui, 215 km entre Binche en Belgique et Épernay en Champagne. Et puis les 8e de finale à Wimbledon, c'est du tennis. En lice, Nadal, Federer et Novak Djokovic face à Hugo Humbert. L'autre Français qualifié, Benoît Paire, sera opposé à l'Espagnol Roberto Bautista Agut.
Et bien sûr, Agnès, la 4e étoile des Américaines, reine incontestée du football féminin.
Elles ont remporté hier à Lyon la Coupe du Monde féminine de foot en dominant les Néerlandaises 2-0, dont un but de Megan Rapinoe, élue meilleure joueuse et meilleure buteuse de ce mondial. Une figure sûre et en dehors des terrains, portrait signé Cédric Billou.
Avec ses cheveux roses et ses tatouages, Megan Rapinoe n'est pas passée inaperçue lors de cette Coupe du Monde. Mais ce n'est évidemment pas son look, mais ses performances sportives qui lui ont valu d'être élue meilleure joueuse de la compétition, ainsi que soulier d'or, récompensant avec ses 6 buts la meilleure buteuse du mondial. Sa personnalité forte et engagée en dehors du terrain l'aura également rendue incontournable durant ce mois de compétition. Militante féministe, elle boycotte l'hymne américain, critique ouvertement Donald Trump, promet de ne pas aller à la Maison Blanche recevoir les félicitations du président américain après cette victoire en Coupe du Monde. Nadia Ben Mokhtar, la consultante de Radio France.
Non seulement elle brille dans le jeu, mais en plus elle arrive à être décisive à tout moment. Elle fait preuve de beaucoup de sang-froid, elle a marqué des pénalties à des moments décisifs, tant par sa prestance sur le terrain que par ses engagements en dehors du terrain. Elle endosse une véritable étiquette de star et elle lui va bien parce que ça ne l'empêche pas d'être performante malgré tous les à côté et les hors terrain.
Âgée de 34 ans, Megan Rapinoe a sans doute disputé en France sa dernière Coupe du Monde. Son prochain et vraisemblablement ultime défi, les Jeux Olympiques en 2020 à Tokyo. Lyon, Cédric Guillou, France Inter.
Donald Trump qui a félicité hier soir toutes les joueuses de la Team USA. Une parade pourrait même être organisée mercredi à Manhattan pour le retour de l'équipe.
Grande parade à l'américaine. C'était le journal d'Agnès Soubiran.